Europe 1. Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. On est reparti pour une magnifique semaine, tous ensemble, avec les excellents Anissa Haddadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Bonjour à tous les trois. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Julien?
Eh bien, vous savez qu'on sait qui va remplacer Jarry à la tête, de tout le monde veut prendre
enfin,
sa place.
Vous savez.
Suspense.
Ouais, on a appris ça ce week-end. Ceux qui ont lu Le Parisien le savent aussi, a priori.
Et Jean-Luc?
On va parler de ce qu'on peut. Non, on va parler de cuisine.
Ah, cuisine.
Mais pas
et de cauchemar aussi ou pas?
Plutôt de cauchemar.
Et puis alors aujourd'hui on va rouvrir un cold case vraiment très très froid, un dossier qui a 200 ans. Comment est vraiment mort Napoléon? Nous sommes avec le grand médecin légiste et archéologue Philippe Charlier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous menez des enquêtes historiques absolument passionnantes sur France 5. Ça s'appelle l'histoire au scalpel. On en parle dans un instant. Tiens, tenez Philippe, vous qui êtes un fin limier, est-ce que vous saurez retrouver le nom de notre invité musical juste avec ses paroles? Pour moi, la musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Qui a chanté cette chanson, Philippe?
De l'amour, de l'amitié.
Nicoletta, bien joué, effectivement. Nicoletta sera avec nous
deux salles de ambiance
tout à l'heure. Exactement. Et vous le voyez, vous avez des platines aussi à vos côtés, puisqu'il y a le groupe Bon Entendeur qui nous rejoindra. Vous savez qu'ils reprennent du Nicoletta maintenant avec Fio Maravilla. On va découvrir ça en live tout à l'heure. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Philippe Charlier. Et je crois que vous êtes très heureux, Jean-Luc. Vous connaissez bien.
Bien, c'est beaucoup dire, mais on se connaît, oui. Ouais. Et j'aime beaucoup Philippe Charlier. J'ai eu la chance de le côtoyer. Et c'est un homme passionnant et délicieux. Ah. Par contre, petit reproche, si je peux me permettre, c'est sans doute le médecin le plus nul que je connaisse. Tous ses patients sont morts. Je dis ça, je dis rien.
Ah oui, c'est peut-être parce qu'il est médecin légiste.
Oh, s'il vous plaît, jouez pas sur les mots. Parce que c'est quoi un médecin légiste? C'est surtout un médecin qui veut pas être emmerdé sur Doctolib. Hein. Et puis je connais Philippe. Il aime tellement disséquer les gens que je suis sûr que de temps en temps, il a du mal à attendre que le corps soit à la bonne température. C'est pas moi qui le dis.
Pendant mon internat, mes patients étaient déjà morts, même si deux de mes patients sont décédés très très peu de temps avant l'autopsie. L'un des deux a peut-être été mis dans le frigidaire encore vivant.
Oh non!
Et il dit ça calmement. Philippe, quand vous ouvrez quelqu'un, si la personne vous dit « bah vas-y, fais comme chez toi », c'est sans doute pour vous signaler que vous avez été un peu impatient. Hein. Alors, certains pourraient se demander à quoi sert d'autopsier des gens décédés depuis longtemps. Eh ben, c'est essentiel, car ça permet de répondre à de grandes questions.
Un moment assez particulier, je dirais particulier, c'est quand j'ai été face à Hitler à Moscou. On est maintenant, à l'issue de nos travaux, sûr et certain que Hitler est bien mort.
Ah bah, sacrée révélation. Merci Philippe.
La citation coupe.
Elle était bonne la vodka à Moscou. Bon, j'avoue, j'ai coupé la
suite.
Je trouvais ça plus drôle comme ça. L'année dernière, je partageais le micro avec Philippe dans Historiquement Vôtre. Et ouais, c'est très instructif de côtoyer des gens aussi érudits. Tous les jours, tu apprends quelque chose.
Pour moi, la disruption, c'est l'anti-académisme. Non pas destructeur, mais l'innovation par l'originalité. Mmh. C'est ça pour moi la disruption.
Ouais. Mais tellement d'accord. Bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il disait, mais j'adore.
J'ai pas compris ce que je disais.
On est d'accord, mais quand je pense que je suis passé de ça, Philippe Charlier à Anissa, qui chaque jour, quand je rentre dans le studio, me dit « vas-y, tire un doigt ». On fait pas des métiers faciles quand même.
Hein. Ça a beaucoup changé, me dit Jean-Luc. Et alors, pour votre session de rattrapage, vous avez trouvé le programme parfait ce matin.
Évidemment. Comme notre invité médecin légiste, je me suis demandé quel serait le programme parfait après avoir découpé des corps. Et donc, j'ai choisi « Cauchemar en cuisine ». Voilà. Déjà, avant toute chose, je voudrais féliciter la programmation de M6. Le mercredi, ils te mettent Top Chef qui te donne envie de devenir cuisinier. Et le vendredi, ils te mettent Cauchemar en cuisine.
Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout.
Voilà, vous savez maintenant que quand ils font Objectif Top Chef, ça peut aussi être Objectif Dépression. Parce que dès le générique de l'émission, on te met dans l'humeur du programme.
J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que j'y arrive pas. Franchement, je suis perdu.
Ça me rassure sur moi, mes parents comme ça.
Oh. C'est sympa, hein. Moi, quand j'ai vu le gamin pleurer, j'ai eu envie de créer une canotte litchi pour lui acheter des nouveaux parents. Cauchemar en cuisine. Non, mais franchement, il y a quoi comme vendredi soir plus triste, à part aller faire un barbecue chez un vegan? Bon, vendredi, Philippe Etchebest était de sortie dans le Nord, chez les ch'tis, donc pour une cuisine locale.
Mozzarella, sauce barbecue maison, d'autres caviar au pesto.
Ouais, pour l'instant, il n'y a trop rien de local. Hein. Viande de bœuf mariné dans l'ail et soja. Sérieux, avec une sauce thaï.
Bah oui, mais si ça se trouve, la sauce thaï vient du nord de la Thaïlande. C'est donc des ch'tis thaï. C'est un resto qui fait le tour des ch'tis de tous les pays. Et tout à coup, un cri se fait entendre dans le resto. Et là, tu sens que Philippe Etchebest a passé plus de temps en cuisine que dans une crèche.
Pour moi, c'est... Ça fait vraiment penser à un enfant qui pleure, qui crie. Ou c'est peut-être un animal.
Oui, ah oui, non, oui, c'est à s'y méprendre. Moi, je ferai gaffe à la place des restaurateurs. Hein. Avec le chef Etchebest, le petit, il peut finir en plat du jour avec une pomme dans la bouche. Dans le cauchemar en cuisine, en général, il faut tout reprendre depuis le début. Donc, quand Philippe donne des conseils, il fait simple.
Vous avez déjà fait une quarantaine de couverts ou pas ?
Non.
Bon, bah, il faut que tu te dises que c'est comme si t'en faisais 10, mais 4 fois plus.
Odile.
Le compte est bon.
Ouais, là, ça reste vraiment au fond de la classe. Hein. Et enfin, le grand soir, le jour de réouverture du resto. Petit problème parmi les clients, une personne n'a pas touché son assiette.
Alors moi je suis végétarienne.
Il y a une dame qui était servie à une table qui n'a pas osé te le dire. Elle est 100% végétarienne.
Après, comme j'aime, voici un nouveau régime qui marche, la végétarienne timide. C'est super efficace. Tu vas dans un resto, tu manges rien. C'est encore mieux qu'un ténia. Allez, à demain.
On termine là-dessus, on termine sur le ténia.
Je pense que c'est une bonne base pour commencer la semaine.
Bien sûr, merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. Qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous allons parler ensemble du tout nouveau numéro de l'Histoire au scalpel présenté par Philippe Charlier, consacré ce numéro à Napoléon. À tout de suite sur Europe 1 dans Culture Média.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Philippe Charlier. Vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue et vous menez des enquêtes historiques passionnantes pour France 5 où vous tentez de faire parler les morts. Ça s'appelle l'Histoire au scalpel. Et alors là, ce jeudi, vous allez ouvrir un tout petit dossier. Vous vous intéressez à la mort de l'empereur Napoléon Bonaparte. Vous pensez vraiment, avant de commencer, qu'il y avait encore des choses à découvrir ?
Oui, il y a pas mal de choses parce qu'au-delà de la mort de l'empereur Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, il y a aussi toutes les conditions de sa vie, de son existence, quasiment 6 ans là-bas sur cette île perdue dans l'Atlantique Sud. Et puis également des masques mortuaires, également des objets de sa vie quotidienne. Et puis son visage aussi, on ignorait jusqu'à ce documentaire et cette étude scientifique quel était le véritable visage de l'empereur. Quand on regarde des peintures, des sculptures, des dessins, des gravures, il n'a quasiment pas le même visage. On le reconnaît, il y a un truc, mais c'est pas le même visage exactement. Et donc on a voulu retourner à la source et donner le premier portrait, la première photographie, en l'occurrence le premier film du vrai visage de Napoléon.
Et c'est ce qu'on voit à la fin effectivement, et ce sont des images qui sont très impressionnantes. Et alors le seul petit problème pour un médecin légiste comme vous, Philippe Charlier, c'est que le corps de Napoléon qui repose aux Invalides, il est vraiment totalement inaccessible. On ne pourra jamais y accéder, a priori.
Oui, pour des raisons architecturales et patrimoniales, on ne peut pas y accéder. Ce n'est pas une omerta de la part du ministère de la Défense ou des Armées. C'est que le corps est au centre du monument des Invalides, dans une sorte d'amoncellement de poupées gigognes de cercueils qui sont tous fusionnés les uns aux autres par du mortier et du béton. Donc c'est un monument qui a été construit dès le départ pour ne pas pouvoir être profané. Mais rassurez-vous, quand on est médecin, et honnêtement, ma spécialité dépasse le simple cadre de la médecine légale, quand on est médecin, on peut utiliser des cheveux, des morceaux de peau, des masques mortuaires, des descriptions de procès-verbaux d'autopsie, d'exhumation, d'embaumement. Voilà, on a énormément de choses à se mettre sous la dent, si je peux dire. Plus l'archéologie, fouiller les latrines sur l'île de Sainte-Hélène de Napoléon, fouiller dans ses poubelles, aller investiguer sur... tout ce qu'on a pu trouver qui a été touché, mangé, approché par lui, que ce soit des bonbons à la réglisse, les feuilles de thé qu'il buvait ou de café, les bouteilles de vin de Constance qu'il faisait venir d'Afrique du Sud, les petits pots de crème dont il se tartinait, et même on est allé jusqu'à gratter ses chaussures et sa baignoire sur l'île de Sainte-Hélène. Donc on l'a reconstitué, si on peut dire, sans avoir le cadavre stricto sensu.
Parce que vous êtes vraiment donc allé à Sainte-Hélène, hein, c'est pas un voyage très simple, hein, il faut le dire.
Ah oui, non, c'est pas au bout du RER. Ah non, en effet.
Voilà, c'est ça, faut passer par Afrique du Sud, et puis bon, maintenant il y a un petit aéroport sur place.
Il y a un petit aéroport, le voyage est moins long, mais c'est Paris-Johannesburg, une nuit à Johannesburg, ensuite un vol jusqu'au Botswana, on fait une pause technique pour prendre de l'essence, pour pouvoir tourner plusieurs fois, parce que si jamais on n'arrive pas à se poser sur Sainte-Hélène, il faut aller sur une autre île.
Il y a énormément de vent là-bas.
Voilà, il y a beaucoup de vent, on fait que 2 tentatives d'atterrissage, et au bout de 2 infructueuses, on va sur une autre île qui est Asuncion, et on attend 1 semaine pour repartir.
C'est incroyable. Et donc vous avez fini par pouvoir vous poser là-bas et visiter donc sa maison de Longwood, enfin vraiment la visiter complètement, puisque vous avez fait donc des fouilles archéologiques sur place. Il n'y avait jamais eu de fouilles réalisées là-bas.
Non, il n'y avait jamais eu de fouilles. Il y avait eu des restaurations ponctuelles. La maison est maintenant dans un très bon état. Et grâce à une convention qu'on a signée avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, eh bien, on a pu faire des fouilles archéologiques à la fois dans Longwood, réouvrir également le tombeau de l'empereur dans la vallée des Géraniums, et donc l'investiguer, voir des graffitis qui ont été laissés dedans, etc. Et puis travailler également au Briars, qui est la première propriété dans laquelle il a séjourné quand il est descendu du bateau avant que Longwood ne soit terminé.
Et c'est vrai que c'est assez surprenant de vous voir frotter avec un simple coton-tige comme ça le fond de la baignoire de Napoléon en espérant retrouver encore quelque chose 200 ans après. Mais le pire, c'est que ça marche. Hein. Les analyses donnent des choses intéressantes.
Oui, les analyses donnent des choses intéressantes. Alors, on montre aussi dans ce documentaire quelques résultats négatifs. On ne trouve pas tout le temps, bien évidemment. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Mais malgré tout, on progresse. Et oui, la baignoire nous a permis de mieux savoir quel était l'état de santé de cet individu, mais également avec quel traitement il essayait de guérir la maladie de peau qu'il avait attrapée probablement quand il a fait l'expédition d'Égypte ou pendant le siège de Toulon et qu'il a gardé malheureusement pendant une grande partie de sa vie. À chaque fois, en fait, on utilise toutes les techniques de la médecine. C'est pour ça qu'au-delà de la médecine légale, c'est vraiment une sorte de santé publique, si on peut dire, qu'on applique à ces restes-là pour déterminer l'état de santé de cet individu, mais aussi de la petite population, la petite cour qui était autour de lui à Longwood, la famille Bertrand, le cheikh, enfin pas le cheikh Ali, le Mamelouk Ali, etc. Donc tous les gens
qui étaient... avait recréé vraiment une cour autour de lui. Avec...
Oui, il n'aimait pas être seul. Alors il avait des moments où il aimait être seul, mais il aimait en tout cas continuer à rayonner, à être le
Alors
centre
qu'il
des attentions.
Alors était dans des conditions très spartiates.
Alors Longwood, honnêtement, maintenant ça se visite, c'est assez sympa, mais à l'époque c'était humide comme c'est pas possible. Il y avait les rats qui couraient sous le palier, plus ou moins bouffés par les termites. Il y avait les draps au niveau du mur qui étaient infestés par la vermine et par l'humidité. Et puis surtout, c'était le bout du monde. Pendant un certain temps, il a cru qu'il pouvait revenir et organiser son retour, la récupération de son trône et une position stratégique au sein de l'Europe. Et puis très vite, il a sombré dans une dépression, puis une mélancolie. On ne vous donnera pas la fin et la chute de cette enquête scientifique et du documentaire, mais tout conspirait malheureusement à ce qu'il ne revienne pas vivant de Sainte-Hélène.
Et ce qui est très impressionnant, c'est comme vous arrivez avec les experts à faire parler un micro fragment du papier peint de la chambre de Napoléon ou une toute petite tache sur une chemise de l'empereur. Après, vous le disiez, il y a parfois des déceptions, comme les bandelettes de l'autopsie de Napoléon auxquelles vous arrivez à avoir accès, mais qui ne donnent pas grand-chose. Mais c'est vraiment passionnant de suivre votre enquête. C'est en fait une nouvelle manière surtout de raconter l'histoire en la croisant avec une enquête scientifique. C'est ça ce que vous avez voulu faire, c'est rendre aussi l'histoire accessible à tous et puis s'inspirer un peu de cette mode autour des thrillers, des enquêtes qui foisonnent à la télévision aujourd'hui.
Oui, totalement. C'est vraiment les sciences biomédicales au service de l'histoire. Chacun de ces différents épisodes de l'histoire au scalpel et chacune de ces études scientifiques, qui fait l'objet d'ailleurs de publications scientifiques, c'est une façon de revisiter main dans la main avec les historiens et avec les historiens de l'art toujours ou les archéologues, des cold cases, comme vous l'avez dit, ou des problèmes historiques. Vérifier d'abord si l'histoire nous dit la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des erreurs de transcription, il y a un récit mythologique qui s'installe au fur et à mesure. Et puis également, approcher, si on peut dire, d'une façon extrêmement réaliste, ces personnages historiques. On a maintenant le véritable visage de Napoléon Ier. On est en train de travailler en ce moment à la reconstitution de la voix de Henri IV à partir de sa tête momifiée. On arrive à lui faire dire des premiers phonèmes. On modélise son larynx en trois dimensions. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que cet ensemble de cas, je porte le projet de création d'un musée dans l'Ouest parisien qui va synthétiser et mettre pas côte à côte, chacun de ces personnages historiques dans une sorte de grande galerie qui sera une sorte d'institut des sciences au service de l'histoire.
Eh bien, regardez l'histoire au scalpel, Napoléon à Sainte-Hélène, le dernier acte est diffusé jeudi sur France 5 à 21h10. Restez avec nous, Philippe Charlier, pour suivre l'actualité des médias.
Oui, puisque dans un instant arrive le journal des médias de Julien Pichenet. Alors, vous savez que Jarry va quitter cet été la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. On vous l'a annoncé ici sur Europe 1. Eh bien, on connaît depuis ce week-end le nom de son successeur. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas, le médecin légiste Philippe Charlier. C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et avec les audiences, tout d'abord, quels sont les chiffres marquants du week-end, Julien ?
Eh bien, commençons par le match des films du dimanche soir. C'est France 2 qui s'est imposé. J'adore ce que vous faites avec Artus et Gérard Lanvin qui a attiré 3 500 000 téléspectateurs. Les Animaux Fantastiques sur TF1 étaient à 500 000 derrière avec 3 millions. Samedi sur TF1, les Cross Battles de The Voice ont été suivis par 3 200 000 téléspectateurs. Danse avec les stars a fini vendredi sa 13e saison. Autour de son score habituel, on était à 3 100 000 pour la finale. Bon, globalement, le programme a enregistré une moyenne d'audience supérieure à 3 millions sur l'ensemble de cette saison. C'est une moyenne supérieure à celle qui avait été enregistrée lors de la 12e saison fin 2022. Hein, c'était 2,6 millions. Côté part de marché, Dals est également en hausse cette année. Et puis la grande semaine de Félix Meunier était en hausse samedi sur M6. On est monté à 610 000 téléspectateurs avant-hier, soit le meilleur score du talk show depuis son lancement il y a 3 semaines.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis avant de dérouler les infos principales de ce week-end, revenons justement sur la finale de Danse avec les stars.
Et plus précisément sur ce discours qui n'est pas passé inaperçu. Vendredi soir, 22h25, Inès Reg et son partenaire Christophe Licata sont éliminés de la compétition au port de la finale. Ils terminent 3e. L'animateur Camille Combal demande alors à Inès Reg ce qu'elle ressent. Bon. À cet instant précis, il y a une étrange coupure très visible à l'antenne. La production a évoqué un bug technique, mais le journal Le Parisien, lui, croit savoir qu'Inès Reg aurait à ce moment-là repoussé Caroline Marjorie-Don qui venait saluer son partenaire. Bon, la production aurait préféré couper cette scène. Après cette étrange coupure, il y a eu ce discours dans lequel Inès Reg a visiblement voulu régler quelques comptes.
J'ai vraiment énormément adoré cette aventure et j'ai aussi beaucoup souffert. Et on a fait de moi ce qu'on a appelé un produit TF1 et on a dit que oui, t'inquiète, c'est sûr, elle a gagné. Je suis officiellement pas un produit TF1. Et les gars, j'ai pas triché. J'ai perdu la tête haute.
Je ne suis officiellement pas un produit TF1, phrase assez étrange, que il serait qu'on le retrouvera tout de même, produit ou pas, à partir de vendredi dans Masked Singer. Elle tournera aussi début juin un téléfilm pour la première chaîne. Toujours selon Le Parisien, Inès Reg serait pas allée féliciter la vainqueur, Natacha Saint-Pierre, à l'issue de la soirée. Bon, on va pas revenir sur la brouille qui est lors de cette saison. Elle était en rage, elle ne voulait parler à personne et personne ne voulait la voir, a indiqué un témoin cité par Le Parisien.
Et puis toujours concernant Danse avec les stars, l'humoriste Artus s'en prend à ce programme.
Oui, c'était ce week-end, Artus qui avait participé à la saison 7, hein, il avait été demi-finaliste. C'était particulier. Heureusement, j'ai rencontré ma femme, donc ça s'est très bien passé à ce niveau-là, parce que j'ai vécu un truc avec elle qui était fou. Après, non, l'émission en elle-même, c'était pas mon univers, dit Artus. On te fait comprendre que t'as signé un contrat et que tu vas fermer ta gueule. Je le cite, c'est pas la plus belle expérience de télé que j'ai eue. On va dire.
Bon, dis donc, que de polémique autour de Dals. Et puis, on connaît désormais le successeur de Jarry, c'est Cyril Ferraud qui présentera Tout le monde veut prendre sa place à la rentrée.
Et ouais, tout compte fait, c'est un choix 100% logique, hein, l'animateur étant devenu au fil des années l'une des principales figures des jeux sur France Télévisions. Cyril Ferraud assure qu'il ne s'attendait pas à ce que la direction de France Télé lui propose de prendre la place de Jarry qui va quitter donc cet été après seulement une saison, la présentation de ce jeu qui fait en moyenne 1 700 000 téléspectateurs chaque jour à l'heure du déjeuner. Bon, Cyril Ferraud dit avoir accepté après 48 heures de réflexion. C'était pas forcément un choix évident parce qu'il va quitter Slam qu'il animait depuis 16 ans. Alors qui va le remplacer à la présentation de Slam? Dans Le Parisien, Cyril Ferraud se pose la question, pourquoi pas un couple pour me remplacer? C'est ce qui se fait dans certaines versions étrangères du jeu. Bon, Cyril Ferraud continuera en revanche d'animer 100% logique The Floor, La Carte au Trésor ou Le Grand Concours des Régions. Je ne sais pas si j'ai tout cité.
Il va être bien occupé, Cyril Ferraud, l'année prochaine. Et puis Christophe de Chavannes, lui, s'en prend à cette rumeur selon laquelle il arrêterait Quelle Époque à l'issue de la saison.
Oui, la semaine dernière, Télé Loisirs avançait Christophe de Chavannes, présent tous les samedis soirs sur France 2, sur le plateau de Quelle Époque aux côtés de Léa Salamé, était loin de voir son contrat renouvelé à la rentrée. Télé Loisirs ajoutant même que De Chavannes était ingérable en coulisses et qu'il agacerait les équipes de France Télévisions. Le principal intéressé a réagi ce week-end sur son compte X en écrivant ceci. Venez voir et observer, serait-ce qu'une fois l'ambiance qui règne à Quelle Époque, ça éviterait les ragots et les propos qui ne reflètent pas la réalité. Fin de citation.
Vous n'avez pas toutes ces histoires, vous, Philippe Charlier, à France 5. Vous êtes tranquille, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de...
Ah non, c'est une ambiance sereine et une ambiance de travail. Et non. Et puis voilà. En plus, nous, on travaille surtout sur le terrain. Donc, au bout du monde à Sainte-Hélène, comment voulez-vous qu'on s'engueule?
Oui, c'est ça. Il y a moins de risques, effectivement. Et puis, à moins de 2 semaines de l'Eurovision, le chanteur Slimane explique à Télé 7 jours pourquoi il a souhaité concourir avec cette chanson, Mon Amour.
Oh, mon amour,
Oui, dans un entretien accordé à Télé 7 jours, Slimane, qui fait la couverture de Télé 7 jours cette semaine et qui représentera les couleurs de la France le 11 mai à Malmö, a indiqué que c'est lui qui a choisi de participer au concours avec cette chanson, qui est déjà certifiée single d'or. Il pense pouvoir sortir du lot en fait et fédérer le public avec une balade romantique. Je sais que dans plusieurs années, dit-il, ce n'est pas une chanson qui sera passée de mode, dans mon cœur en tout cas. Je pourrais la réécouter et me dire « je suis fier de moi ». Bon, je rappelle quand même, ça fait 47 ans cette année que la France ne s'est pas imposée à l'Eurovision. La dernière fois, c'était en 77 avec Marie-Myriam, on le répète tous les ans.
Mais c'était une balade.
Oui.
Donc, c'était une balade.
Comme un enfant aux yeux de lumière.
Merci beaucoup, Anissa. Est-ce que vous regardez un
petit... Non, c'était bien. C'était Moi, j'aimais bien.
Merci, Philippe Charlier.
Il y a un soutien. Oui, au moins. Est-ce que vous regardez un peu le foot, Philippe Charlier, ou pas?
Alors hier soir, j'ai suivi avec un de mes fils, avec Paul, on a suivi la finale, enfin en tout cas la victoire du PSG hier soir, grâce à Lyon.
Exactement, et parce qu'alors sur Canal+, il est désormais possible de regarder le foot anglais, mais sans les commentaires.
Ouais, et bientôt peut-être le foot français, on verra. Vous savez qu'en ce moment, Canal+, recrute de nouveaux talents du commentaire avec son émission au micro. Mais d'un autre côté, le groupe propose aussi depuis ce week-end de suivre les matchs du championnat anglais sans commentaire sur les chaînes Canal+, et MyCanal. Vous pouvez choisir avec ou sans commentaire. Qu'en pensent les passionnés de foot? Est-ce qu'ils préfèrent avec ou sans? J'ai posé la question à des amateurs de foot, vous allez voir que les avis sont très partagés.
Souvent les commentateurs perturbent peut-être un peu l'ambiance du stade, et en tant que grand amoureux de foot, l'ambiance d'un stade c'est aussi quelque chose qui rajoute quelque chose au match, et avoir cette ambiance-là comme si on y était, pour moi c'est positif.
Pour moi ça permet de vivre le moment et ce que vivent les joueurs aussi avec les bruits d'ambiance, le public, la pression, sans forcément avoir à se déplacer dans le stade.
Je préfère regarder avec commentaire, ça rajoute forcément quelque chose dans le match. Je dois dire qu'il y a certains commentaires qui nous restent dans la tête, qui font qu'on se rappelle de ces matchs-là, justement à cause du commentateur.
La voix des commentateurs, elle montre vraiment l'effervescence qu'il y a dans le stade. Hein. On se souvient des fameux mots pour Zidane, 98. Il peut y avoir des expressions un petit peu légendaires, donc c'est dommage de les entendre.
Bien sûr, bien sûr. Je ne pourrais pas.
Si les commentaires n'existaient pas, on n'aurait pas entendu Thierry Roland dire « Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. »
Oui, oui. En 98, mais on peut.
Non, c'est Thierry Gélardi qui disait « Pas ça, Zizou, parce que pas maintenant, pas après tout ce que tu
2006,
as fait. »
En 2006, évidemment. Bon, c'est à vous de voir, ou plutôt c'est à vous de décider si vous ne voulez pas les entendre. On verra si ça marche ou pas, et si ça se propage, si ça s'étend à d'autres championnats.
Nous, on souhaite continuer à vous entendre chaque matin dans Culture Média. Julien, merci beaucoup pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci aussi à Philippe Charlier.
Merci à vous.
D'être venu nous voir ce matin. L'histoire au scalpel, Napoléon à Sainte-Hélène, ce sera diffusé donc jeudi sur France 5 à 21h10. Merci d'être venu.
Et Culture Média, Thomas, continue après les infos de 10h.
Oui, on a beaucoup de chance puisqu'on sera avec la grande Nicoletta, et puis le groupe Bon Entendeur va nous rejoindre également.
Et puis tous les soirs, vous le savez, vous pouvez prendre la parole sur Europe 1 et participer à la libre antenne juste après le journal de 22h et jusqu'à 1h du matin, du lundi au jeudi avec Olivier Delacroix et du vendredi au dimanche avec Valérie Darmon. Pour participer à la libre antenne, vous pouvez vous inscrire dès maintenant 01 80 20 39 21. À tout de suite.